Lundi 27 et mardi 28 mai, le Centre Social Soleil Levant de Firminy organisait une nouvelle édition de Pour notre planète, on s'y met. Accompagnée de bénévoles et d'intervenants extérieurs, l'équipe du Soleil Levant accueillait les élèves des écoles de Firminy pour une succession d'ateliers de sensibilisation au développement durable et à l'écologie. Reportage aujourd'hui sur Radio Ondaine avec tout d'abord Céline Véricelle qui nous parle de ce projet Pour notre planète, on s'y met, version pluvieuse quand même en ce mois de mai.
Et oui, ça fait partie de la nature et puis bon, la nature a besoin de la pluie, mais ça n'empêche pas les enfants de participer. Et toutes les classes sont quand même venues cet après-midi pour découvrir tous les stands.
Alors, découvrir des stands, c'est aussi prendre conscience de la nature, du monde qui nous entoure, avec un stand à la découverte de ce que l'humain a emprunté au milieu naturel pour ses déplacements, etc. Ici, le chemin où on retrouve des sensations de toucher avec les pieds. Voilà, tout un tas de bénévoles qui s'inscrivent au sortir de cette première journée, déjà bien entamée. Voilà, quelles sont les remarques des enfants et des enseignants?
Eh ben, le bilan, il est plutôt très positif. Depuis ce matin, on est remercié pour la qualité des animations proposées, de la diversité aussi des ateliers, et puis pour la fluidité qu'on peut avoir, parce que cette année, on a la chance d'avoir plus d'ateliers pour que ça soit, on va dire, plus facile et plus évident. Donc les groupes attendent aussi moins, et les enfants, voilà, sont toujours hyper, hyper intéressés. Pour des ateliers créatifs, manuels et même des ateliers plus, on va dire, intellectuels avec de la réflexion, de l'échange. Ils ont toujours plein de choses à dire.
Alors combien de bénévoles pour rappeler les gens qui se mobilisent?
On va dire une trentaine de bénévoles sur les deux jours, plus également des prestataires avec qui on travaille depuis deux ou trois ans, qui apprécient aussi toujours ce rendez-vous annuel et qui viennent du coup avec plaisir faire découvrir chaque année un nouvel outil, un nouveau jeu, une nouvelle thématique.
Dans des pommes de pain, de l'eau froide et aussi dans des pierres.
Dans des pierres, dans
un tapis, dans des branches de sapin. Moi, sur les cailloux, ça m'a fait super mal.
Moi aussi, mais ça allait après pour
non, ça va.
Ça allait. Par contre, il y en a qui m'ont fait mal aux pieds, mais après, il y en a qui m'ont pas fait mal.
Le tapis là-bas, le bois.
Le bois, le tapis.
C'est donc pieds nus et quand on a les yeux masqués, on ne sait pas où on marche. Donc, il va falloir, avec le pied, essayer de se dire qu'est-ce que je ressens. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que ça pique? Et puis se dire, est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? C'est tout ça qu'il va falloir se dire, rien qu'avec les pieds.
C'est agréable et dur.
C'est dur. Et là?
Là, c'est agréable et mou. Ça, c'est désagréable et dur.
Aïe!
Et ça c'est dur et ça pique. Ça c'est agréable.
Alors quel est le but de ce petit chemin?
Le but du chemin, c'est de ressentir plein de sensations avec les pieds. Des sensations, dire si c'est dur, si c'est mou, si ça pique. Et puis de dire aussi si on trouve ça agréable ou pas agréable. Donc le but, c'est de trouver du vocabulaire et puis des émotions.
Alors effectivement, ici, on utilise ce sens du toucher avec les pieds. Hein, mais là, on doit découvrir effectivement sur quoi on marche. Alors, des petits bacs avec des cailloux, avec des petits branchages, des pierres, etc.
Voilà, il y a plein de choses. Il doit y avoir une vingtaine de petits lieux totalement différents qui sont tous naturels. Ça peut être des galets, des fougères, des bois, des rondins. Il y a des sous-bois, il y a de la mousse, il y a des babets, les fameuses pommes de pin. Ça, ils ont horreur.
Alors ces enfants-là, au sortir de ce chemin et après ce parcours-là, qu'est-ce qu'ils disent?
Eh bien, ils disent tous que c'est hyper bien, mais c'est pas toujours agréable.
On est très habitués aux chaussures.
Ils sont habitués aux chaussures, mais pas tous. Il y a des gens, et il y en a deux ou trois qui nous ont dit, moi, à la maison, j'arrive à marcher pieds nus.
Là, dans le mode de prise de conscience du monde de demain, c'est quoi l'intérêt finalement? C'est de découvrir la matière, découvrir la nature?
c'est aussi de découvrir la nature et puis d'éprouver de nouvelles sensations. On ne marche plus pieds nus. Donc le fait de remarcher pieds nus, c'est aussi avoir une approche différente de la nature.
À votre avis, comment s'appelle ce qu'elles ont sur la tête? On dirait une dentelle.
Une crête.
Des crêtes, c'est ça. Est-ce que vous savez que quand la poule est jeune, la crête, elle est rose? Et elle n'est pas prête de faire des œufs, la poule. Mais quand elle est adulte et que la crête est rouge, ça y est, elles sont prêtes à faire des œufs. On reconnaît à ça qu'il va y avoir des œufs. Et si vous regardez bien là-bas, dans la corbeille, il y a deux œufs. Alors il y en a trois parce qu'il y en a un qui n'est pas un vrai. Et c'est l'endroit où qui leur indique qu'elles doivent venir faire leurs œufs ici. Parce que chez moi, elles sont à moi, mais chez moi, elles ont un endroit où elles font tout le temps leurs œufs au même endroit. Mais là, elles n'auraient pas su où faire leurs œufs. Donc j'ai mis de la paille et j'ai mis un faux œuf. Vous ne le savez pas, vous, mais ce que c'est un nia. Eh bien, un nia, c'est un faux œuf. C'était à la campagne. On disait ça s'appelle un nia. C'est un œuf dur, tu vois, il ne se casse pas. C'est pour indiquer à la poule, c'est l'endroit où faire.
Je m'appelle Gérald.
Et je suis Karine.
Voilà. Qu'est-ce qu'on fait, à votre avis, dans ce stand? Qu'est-ce qui s'y passe? Regardez autour de vous.
Déjà, je vois un volcan en éruption.
Ouais. Quoi d'autre? Est-ce que ça vous évoque quelque chose, cette pancarte?
L'organe.
Ah oui, lequel?
De l'oreille.
Les oreilles. Donc, on va parler même du son. On va voir comment est fait une oreille, parce que quand on vous dit le mot oreille, tout de suite, vous pensez à l'extérieur de l'oreille. Hein, d'accord, on y reviendra après, cette partie qui s'appelle le pavillon. Mais on n'imagine pas qu'il y a toute une mécanique. Il y a toute une mécanique à l'intérieur. D'accord? C'est beaucoup plus complexe qu'on peut le croire. On va faire une expérience. Je vais vous demander de fermer les yeux. Fermez les yeux, détendez-vous. Qu'est-ce que vous entendez?
La pluie.
La pluie.
Ouais. Quoi d'autre?
Les gens.
Ta voix.
Les gens, oui, les gens qui parlent.
La voix.
D'accord. Alors la pluie, est-ce que vous pouvez dire un endroit précis où vous l'entendez, ou est-ce que vous l'entendez à peu près partout de la
en
même
face?
Moi
je l'entends
bien, là on l'entend très très bien.
Alors on l'entend exactement, on l'entend de manière uniforme, puisque on l'entend ici sur le toit, on peut l'entendre là-bas. On peut entendre les clapotis des gouttes par terre, ok.
On entend ces bruits.
Qu'est-ce qui fait que ces sons ils arrivent jusqu'à nous, à notre oreille? Donc là, ce qui se passe, c'est ce qui s'appelle la propagation.
Je suis Karine Baumerin, je suis éducatrice chargée de projet à l'association Appieux Millefeuille. On fait de l'éducation à l'environnement, c'est-à-dire qu'on va le plus souvent dans les écoles ou dans les centres sociaux et on explique des petites choses autour de la planète, pourquoi on vous demande de trier les déchets, le changement climatique, l'eau dans les robinets, etc.
Alors là, un atelier à travers le son. Pollution sonore, c'est le petit panneau qui annonce ce Barnum. Qu'est-ce qu'on retrouve ici et puis pour comment on parle de cette pollution sonore? En fait, est-ce qu'on en a conscience ou pas? Surtout pour ces enfants.
Alors la pollution sonore, c'est vrai que c'est pas une pollution très connue. On parle souvent de pollution de l'eau, pollution de l'air, etc. Et pourtant, c'est une réalité puisqu'on se rend compte que c'est un problème de santé publique et on estime qu'il y a de plus en plus de personnes qui risquent de devenir malentendantes à cause des smartphones trop forts ou des concerts, etc.
Alors si l'on regarde ces dépliants que vous avez et ces panneaux qui sont installés, on peut peut-être les décrire chacun après dans leur sujet qu'ils développent. Et comment on l'explique à ces jeunes enfants des écoles?
Alors nous, on a une exposition du coup avec plusieurs panneaux, donc là aujourd'hui on n'en a que 4, mais vous avez par exemple l'échelle des décibels qui est assez parlante, qui montre un petit peu en termes de chiffres les sons les plus faibles et les plus forts. Et puis vous avez aussi l'anatomie de l'oreille qui est intéressante, puisque généralement quand on pense à oreille, on pense seulement au pavillon, à la partie externe, et en fait il y a toute une partie interne qui est vraiment très importante et où il y a les petites cellules auditives qui nous permettent d'entendre.
D'autres matériels, une sorte de percussion, un sonomètre me semble-t-il, un casque anti-bruit, tout ça pour faire prendre conscience en fait des différents sons et de la puissance sonore.
Oui, alors on veut parler de puissance, mais aussi de propagation, comment le son se propage. Donc on a aussi des petits diapasons pour faire des petites expériences. On a un sonomètre pour mesurer les sons. On a une échelle des sons avec des petites images à coller au bon endroit. J'ai amené aussi une darbuka pour faire des petites expériences. Et on a un puzzle aussi de l'oreille.
Qu'est-ce que les enfants vous disent au sortir de ces ateliers-là, notamment sur cette journée ?
Alors nous, l'idée, c'est surtout de leur faire prendre conscience que l'oreille est fragile et que si on veut la protéger, il y a des petits gestes à adopter comme mettre des bouchons, utiliser des casques anti-bruit ou tout simplement se boucher les oreilles quand on passe à côté d'un marteau-piqueur, baisser les sons des smartphones, etc. Donc c'est ça qu'on veut faire passer comme message, c'est d'essayer de se protéger au maximum parce que contrairement à une coupure qui nous fait mal et du coup on pense à faire attention la prochaine fois, l'oreille malheureusement ça ne fait pas mal. Et par contre les résultats ça se démontre 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard quand on n'entend plus quoi.
Est-ce qu'il vient à pied le jean ? Est-ce qu'il fait ce parcours à pied ?
Il
fait
comment le parcours ? Des bateaux,
en avion, en bateau, en camion, etc. Donc c'est du pétrole. C'est plein de choses, voilà. Pour que nous, on l'achète ici. Et ça fait combien de kilomètres, tout ça ?
Beaucoup.
Et tout ça, je viens de faire 65 000 kilomètres.
65
000 kilomètres. Et ça, c'est le parcours d'un jean.
Ah ouais !
Attends, comment ça, il fait ?
Comment
ça, il fait un tour plus un tour ?
La présence aujourd'hui de l'association Parc de Montaut pour la présentation de ces petites cabanes qui sont simplement des toilettes sèches. C'est quoi des toilettes sèches ?
Alors, des toilettes sèches, comme son nom l'indique, c'est des toilettes qui sont sèches, donc qui n'utilisent pas d'eau. Alors nous, on place des conteneurs de sciure de bois sous les cuvettes des WC. Donc, quand on entre dans les toilettes, c'est des WC tout à fait normaux. Il y a la cuvette, il y a le petit rouleau de papier sur le côté. Donc, on s'assoit sur la cuvette, on fait ce qu'on a à faire. Ça tombe dans la sciure de bois, on peut s'essuyer, jeter le papier dans la cuvette. Et soit on rajoute de la sciure de bois soi-même s'il y a un petit contenant à l'intérieur pour mettre par-dessus ce qu'on a fait, soit la personne qui s'en occupe le fera. Et voilà, on n'utilise pas d'eau du coup.
Alors, rappelons quand même, tirer une chasse d'eau, c'est combien de litres d'eau à chaque fois qu'il part ?
Alors, dans les anciennes chasses, c'était 9 litres. Là, les nouvelles qui sont dans les nouvelles maisons, c'est 6-7 litres, ça dépend. Et le petit économiseur d'eau pour le petit pipi, c'est 3 litres.
Alors là, on entend tout de suite les commentaires des enfants. Il n'y a pas de chasse d'eau, c'est dégueulasse, ça va sentir mauvais. Alors, la réalité ?
Ouais, alors il y a surtout quand on rentre, on voit ce que les autres ont fait avant. Alors ça sent pas tant mauvais que ça, parce que la sciure de bois, ça recouvre pas mal l'odeur. C'est plutôt pas mal l'air, ça fait un peu comme la litière de chat. Où il suffit de recouvrir et ça va bien. Non, ça sent pas mauvais. Pour ce qui est de... on n'a peut-être pas obligé de regarder ce que les autres ont fait avant d'y aller. Hein.
Voilà.
Si on veut pas être dégoûté, on va dire, de ce qui a été fait. Mais s'il y a une personne qui s'en occupe assez régulièrement, après une grosse commission, il suffit d'être, on va dire, réactif. Et puis on recouvre et puis c'est comme si de rien n'était. Hein.
Alors les toilettes sèches, c'est quelque chose qui se développe notamment dans le monde festif, le milieu des festivals, etc. Beaucoup de démarches écologiques là-dessus. Les toilettes sèches à la maison, c'est compatible ?
Alors, dans les salles de bain et WC actuelles, non, mais dans un jardin, ça peut tout à fait être mis en place.
Ici, vous présentez un peu les productions, hein, c'est ça, du parc de Montaut, sur ces toilettes sèches-là. Pour avoir un ordre d'idée, on met combien de temps pour en construire une ? Alors, on va le décrire, hein, ça doit faire 2,20 m de haut, on va dire 1,20 m sur 1,20 m. C'est pas très gros, finalement.
Non, ça va, c'est pas très grand, puis surtout, celles-là, elles sont démontables. Donc en fait, on peut démonter panneau par panneau, le toit est rétractable. Après, pour la construire, tout dépend, on va dire, le modèle qu'on veut faire. Bon, on va dire que ça peut aller de 5-6 heures à quelques jours. C'est assez rapide à construire au final.
Vous choisissez un produit dans chaque casier qui, une fois consommé ou utilisé, fera le moins de déchets possible. Allez, prenez un panier, chaque groupe prend un panier.
Ça, c'est réutilisable.
Oui, mais la lessive, non, parce que c'est du liquide.
Alors, pour le jus d'orange, vous avez pris quoi ?
On a choisi des oranges.
Et pourquoi ? Au pif ?
Parce que ça se finit. Du coup,
Alors, explique.
Du coup, il n'en restera plus. on enlève les peaux.
Ouais.
Et puisque,
donc c'est bien les oranges, parce qu'effectivement, quand une fois qu'on a mangé l'orange, il reste que les peaux, et les peaux, ça se composte. Ça fait très peu de déchets. Alors qu'ici, effectivement, j'ai un emballage en carton, du plastique, et là, j'ai plein de...
Monsieur, quel stand avez-vous ?
Le stand des déchets. Donc, notamment, essayer de réfléchir au niveau des achats pour acheter des produits qui produisent le moins de déchets possible. Notamment, par exemple, sur le jus d'orange, il vaut mieux profiter et acheter des oranges entières, faire son jus, si on peut, plutôt que des bouteilles en plastique, des bouteilles en carton, voire des petites portions individuelles avec des pailles ou qui produisent beaucoup de déchets.
Alors ici, la question et surtout l'objectif est de montrer finalement que bah, tout ce qu'on utilise tous les jours est emballé et que cet emballage-là, bah, une fois qu'on a usé le contenu, il va en déchetterie. Oui.
Voilà. Et donc, et on a effectivement, par exemple, dans les boissons, si on utilise une gourde qui est réutilisable à chaque fois qu'on boit, on la remplit. Alors que si on prend une grande bouteille d'eau, bah, il faudra acheter. Par contre, alors, si on prend en plus des petites bouteilles d'eau de 33 centilitres, eh bah, il faudra en acheter 3 pour boire. Pour boire un litre. De au même titre que le café, par exemple, entre les dosettes métalliques qui produisent effectivement beaucoup de zones qui sont difficilement recyclables, par rapport, plutôt que d'acheter son café moulu dans un sac ou en vrac en grains qu'on moue, donc automatiquement on aura très peu de déchets d'un côté et beaucoup de déchets de l'autre.
Alors là, ça s'adresse plutôt à leurs parents, hein, parce que ces enfants-là, ils ne vont pas faire leurs courses, donc ils n'ont pas la carte bleue. Alors,
tout à fait,
justement,
mais on se rend compte qu'à l'usage, qu'effectivement, souvent, quand les enfants sont acclimatés ou ils ont un discours le plus tôt possible sur ces choses-là, c'est souvent après les enfants qui disent aux parents « il ne faut pas acheter ça parce que ça fait trop de déchets ». Donc voilà, c'est si on leur a appris le plus en amont possible que effectivement la planète elle se protège et pour la protéger ben il faut limiter les déchets. Tôt ou tard, alors eux deviendront adultes, mais aussi leurs parents des fois ils peuvent dire ben quand ils font les courses, dire non là moi j'ai appris que fallait pas acheter ça parce qu'il y avait trop de déchets.
Alors justement, dans les questions, les commentaires que vous entendez de ce défilé d'enfants, de ces classes des écoles de Firminy, qu'est-ce qui revient souvent ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous marquent, entre guillemets, des choses que vous remarquez dans les commentaires ?
Bah souvent, les enfants, ce qu'il y a, c'est qu'ils reproduisent les parents, c'est évident. Alors bon, on a certaines, on voit certaines familles qui ont l'habitude de prendre ou du surgelé ou du pré-emballé, par exemple sur les beefsteaks. Entre le beefsteak du boucher emballé dans un simple papier et une barquette en plastique préparée au supermarché, ils choisiront le supermarché pensant que c'est toujours au niveau des gobelets pour les boissons plutôt que le verre en verre et le gobelet en plastique. Ils prendront plutôt le gobelet en plastique parce qu'ils ont l'habitude effectivement de se servir de ce genre de choses. Au niveau de la lessive en vrac, c'est vrai que bon, ils doivent plutôt voir des dosettes de leurs parents mettre. Donc ils reproduisent effectivement ce que font les parents. Alors on se rend compte que ben, y a des familles qui sont déjà soucieuses de ces déchets et puis d'autres qui sont effectivement dans la consommation ou l'ultra-consommation. Et c'est plutôt le produit, par exemple le Chocapic. Ben, il y a des gamins qui préfèrent plus le choc à pic individuel en bar, le truc, que d'acheter la grosse boîte.
Voilà.
C'est évident, bon, c'est des reproductions. Mais en lui disant que c'est pas bon pour la planète, peut-être que ça fera un petit chemin dans sa tête. Et quand il sera adulte, bon, il aura peut-être pensé que ben, il faut peut-être revoir ses habitudes.